Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et le journal, c'est avec Aude Vernuccio. Il y a la une, Aude.
Peut-on parler de bac au rabais? Près de 96% des terminales ont obtenu leur diplôme après rattrapage. Record absolu, mais c'est pas gagné pour une place à l'université. Une goutte de sang et vous saurez si vous avez développé des anticorps. Nouveau test de dépistage disponible en pharmacie depuis hier. Et puis le coronavirus qui va jusqu'à bousculer la fête nationale. On partira place de la Concorde pour suivre les premières répétitions du 14 juillet.
Et on commence par ce chiffre, 95,7%. C'est le taux de réussite après rattrapage du bac 2020, c'est un record.
7 points de plus que l'an dernier. Dans les filières générales, on peut même compter à l'envers. Seulement 2% des élèves de terminale n'ont pas obtenu le sésame. Pas vraiment précieux cette année, diront certains. Avec le confinement, pas d'épreuve finale et des notes issues du contrôle continu. Pour autant, tout n'est pas gagné pour les bacheliers. L'équation bac égale université n'est pas forcément exacte selon Yannick Di Bartolomeo, secrétaire national de l'UNEL, l'Union nationale lycéenne.
Même si les conditions d'obtention du baccalauréat ont changé pour cette année, les conditions de Parcoursup, elles, n'ont pas changé. Parcoursup, on le sait, refuse chaque année des milliers de candidats et de candidates dans des universités. Et du coup, on se retrouve avec sûrement avec le même taux de place que l'année précédente. Et en fait, cette année, on va se retrouver avec encore plus de bacheliers et de bachelières qui se retrouveront sans fac parce que les politiques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'ont pas... C'était sûrement une volonté, mais il n'y a pas eu cette démarche de se dire y a plus de bacheliers et de bachelières cette année, on va ouvrir plus de places.
Propos recueillis par Valentin Boisset pour RTL. Décidément, le coronavirus aura créé beaucoup de nouveaux mots dans le vocabulaire commun. Encore une drôle d'abréviation est parue au journal officiel hier. Le TROD, c'est le nom d'un test rapide en pharmacie qui permet de détecter d'éventuels anticorps du coronavirus. C'est un peu le même principe que la sérologie en laboratoire, Marion Ferrer.
Comme pour un test glycémique, il suffira d'une goutte de sang et d'un peu de réactif pour savoir si oui ou non vous avez été en contact avec le coronavirus, si vous avez développé des anticorps. Un test donc réalisable rapidement, mais dont la fiabilité n'est pas sûre à 100%. François Blanchecotte, présidente du syndicat des biologistes, a participé à l'étude remise à la Haute Autorité de Santé.
ETROD avait comme inconvénient d'être fait sur 100 total. Ils n'ont pas du tout été validés par les centres nationaux de référence sur 100 total. Vous diminuez la sensibilité de la détection des anticorps chez les patients. Et on a vu que certaines publications internationales donnaient quasiment 40% de faux résultats.
Ces tests, les TROD, peuvent vous rassurer, mais ils ne vont pas vous révéler si vous êtes toujours porteur du virus et donc contagieux.
C'est une image Polaroid. Ça veut dire qu'on vous prend ce jour-là, au jour J, et vous n'avez pas d'anticorps. Et forcément, 15 jours, 3 semaines plus tard, ça ne veut pas dire que des anticorps ne sont pas présents dans votre sang.
Pour le moment, l'arrêté ne précise ni le prix ni la prise en charge de ces tests. Les professionnels de santé s'inquiètent également de l'éparpillement des malades et rappellent l'importance du suivi médical dans la lutte contre la Covid-19.
Les explications de Marion Ferrer pour RTL. Le port du masque obligatoire dans les lieux clos, comme les cinémas, les supermarchés, c'est ce que réclament des grands noms de la médecine dans une tribune publiée par Le Parisien aujourd'hui en France. Inquiet par le relâchement des Français. Le virus, lui, ne nous oublie pas, écrivent-ils.
Le masque qui est apparu pour la première fois sur le visage de Donald Trump.
C'est un peu l'image à laquelle on ne s'attendait pas cette nuit. Donald Trump et sa horde de conseillers qui arborent un masque en tissu noir. Le président américain sortait d'une visite officielle en milieu hospitalier. Pour autant, il s'était toujours montré très réticent face à cette recommandation. Philippe Corbet.
Oui, ça faisait des mois qu'il refusait de porter un masque en public et il était imité par une bonne partie de ses sympathisants qui refusent de couvrir leur visage en pensant que c'est un signe de faiblesse ou de politiquement correct. Le masque est devenu ici un objet de controverse politique. Sa gestion de la crise sanitaire a provoqué son décrochage dans les sondages et le virus accélère dans plusieurs États qui ont rouvert précipitamment comme il les encourageait. Cette première sortie masquée dans un hôpital militaire, c'est aussi une façon de détourner l'attention d'un scandale provoqué par sa décision il y a 24 heures, de commuer la peine d'un de ses vieux amis qui devait partir en prison dans quelques jours. Roger Stone, condamné à 40 mois de prison dans des affaires liées à la campagne Trump en 2016, après des investigations du procureur spécial de l'affaire russe, il a été condamné pour avoir menti afin de protéger le président. Stone menaçait de raconter ce qu'il sait sur Donald Trump s'il était envoyé en prison. Selon le sénateur Romney, républicain, donc du parti du président, cette grâce est une corruption historique sans précédent pour un président américain.
Philippe Corbet, correspondant d'RTL aux États-Unis, le pays qui fait face à un nouveau record de contamination cette nuit. Plus de 66 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 135 000 personnes qui ont succombé à la maladie Covid-19.
Allez, on marque une pause et tout de suite... Direction Place de la Concorde, au bas des Champs-Élysées, pour les premières répétitions d'un 14 juillet qui s'annonce bien particulier cette année. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Dominique Tenza.
La suite du journal à 9h07 avec Aude Vernuccio. Pas de feu d'artifice, pas de balles des pompiers à Paris et un défilé militaire remodelé. Drôle de 14 juillet.
Ce sera d'ailleurs plutôt une cérémonie confinée sur la place de la Concorde avec deux hommages majeurs. Le premier au général de Gaulle, 80 ans après l'appel du 18 juin. Le second aux soignants. Le service de santé des armées y sera particulièrement à l'honneur. On va rejoindre tout de suite la voix du 14 juillet sur RTL. Pierre Julien qui assiste en ce moment aux premières répétitions à Paris, place de la Concorde. Bon, vous le confirmez, c'est très particulier cette année.
Oui, bonjour Oda, c'est vrai que cette cérémonie, et vous l'avez dit, on ne dit pas défilé car il est vraiment réduit à sa plus simple expression, est très spéciale. Les Champs-Élysées sont vides, pas de public, pas d'estrade, et cela fait tout drôle de ne pas descendre cette si belle avenue avec les troupes, puis la remonter et la redescendre, comme je l'ai fait si souvent pour RTL lors des répétitions, disons normal. Là, tout se tient. Place de la Concorde, qui a été spécialement aménagée, il y a des tribunes qui ont été érigées des deux côtés autour de l'obélisque, celle du président, bien sûr, étant pour cette année accolée au grille du Palais Royal. Alors les militaires, logiquement, ils devraient être 2200 au lieu de 4300 l'an dernier, enlèvent leur masque avant de commencer à avancer, après leur mise en place pour être passés en revue. Ce matin, ils ont eu un peu de mal, avouons-le, à prendre leur marque derrière les unités à l'honneur, hein, les soignants et le soutien du service de santé des armées. En effet, soldats, aviateurs, marins, pompiers doivent partir dans le sens contraire des aiguilles de l'horloge, hein, pour quitter la place direction la Madeleine. Eh bien, il y a eu quelques problèmes de respect des distances. Je ne parle pas, hein, des distances de sécurité, mais tout simplement du marcher au pas dans un périmètre réduit. Il va falloir encore répéter au moins une, voire deux fois demain.
Pierre Julien, en direct de la place de la Concorde à Paris. Distance de sécurité oblige. Il y aura bien un feu d'artifice à Paris, mais sans public sur le Champ de Mars. Dans certaines communes, il est même carrément annulé. Emmanuel Macron renoue d'une certaine façon avec la tradition. Le chef de l'État va s'exprimer ce mardi à l'occasion de la fête nationale à partir de 13h dans un entretien télévisé. Prise de parole pour faire le point sur la crise sanitaire et très largement sur la relance économique d'après le journal du dimanche. Le lendemain, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui prendra la parole devant l'Assemblée nationale pour son discours de politique générale. Dans le reste de l'actualité, l'onde de choc dans les murs d'Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo français fait face à des accusations de harcèlement envers plusieurs de ses cadres. Le numéro 2 de l'entreprise, Serge Asquette, démissionne. Il sera remplacé par le PDG lui-même en intérim, Yves Guillemot.
Dans les pas du mouvement MeToo, une chanteuse canadienne est à l'origine d'un phénomène sur les réseaux sociaux.
Vous ne connaissez peut-être pas son nom. Ici en France, elle s'appelle Safia Nolin, auteure, compositrice et interprète qui dénonce depuis mardi le harcèlement sexuel dans le milieu musical. Harcèlement accompagné d'agressions physiques commis par une femme, une animatrice de télévision extrêmement connue au Québec. Elle est soutenue par des dizaines de milliers de personnes. Alexis Gacon.
Le mouvement est parti du témoignage d'une chanteuse pop québécoise, Safia Nolin, qui a affirmé sur Instagram s'être fait mordre la cuisse au cours d'une soirée arrosée par une animatrice de télévision vedette d'ici, qui depuis a reconnu les faits. Dans la foulée, c'est une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux de femmes qui racontent avoir vécu du harcèlement ou des agressions sexuelles de la part de chanteurs. Marie-Pierre Hamel coordonne les spectacles d'un label musical montréalais. Pour elle, ce MeToo de la musique était attendu depuis longtemps.
En musique, ce qui a choqué et qui a attiré beaucoup l'attention, c'est que là, on a des personnalités quand même assez connues qui ont été dénoncés. Le pouvoir, c'est ce qui amène à ces comportements-là. C'est des gens qui pensent qu'on le saura jamais, qui essaient de faire taire d'autres personnes.
Parmi les acteurs du milieu visé, le label de la chanteuse Cœur de Pirate, Dare to Care. Son directeur a admis être complice d'un système qui maintient les victimes de harcèlement dans le silence. Comme d'autres grands noms de la musique d'ici, la chanteuse a donc décidé de ne plus être représentée par ce label. Marie-Pierre Hamel estime que le milieu musical peut se sortir grandi de cette vague.
C'est vraiment plus profond, là. Là, on voit la pointe de l'iceberg. En fait, c'est beaucoup plus gros que ce.
Face au torrent d'allégations, plusieurs chanteurs ont fait leur mea culpa en reconnaissant des comportements déplacés et mis leur carrière sur pause.
Alexis Gacon, correspondant d'RTL au Québec. On passe au sport avec le grand retour du Paris Saint-Germain. Ce soir, le club de foot parisien affronte le Havre en match amical. L'enjeu sportif n'est certes pas énorme, mais c'est un match symbolique. 5000 supporters autorisés en tribune et parmi eux peut-être Édouard Philippe, le nouveau maire du Havre.
On en parlait il y a quelques minutes avec Eric Silvestro qui a réalisé cet entretien exceptionnel. L'événement ce soir sur RTL, c'est la première prise de parole de Didier Deschamps après des mois de coups d'arrêt pour les compétitions sportives.
Le sélectionneur des Bleus qui sera sur RTL entre 18h30 et 19h dans On refait le sport et il aura plaisir à écouter ce sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. 22 ans après la victoire des Bleus en Coupe du Monde, 83% des Français ont une bonne opinion de celui qu'on surnomme chez les footeux La Dèche, Christian Olivier.
Et en prenant connaissance de ce baromètre, Didier Deschamps aura le sourire. Tous les indicateurs sont au vert pour le sélectionneur de l'équipe de France. Popularité, compétences, avenir. Alors commençons par le seul bémol, et il aura l'occasion de s'en expliquer ce soir sur RTL. Trop prudent dans ses choix sportifs pour 53% des amateurs de football. Trop prudent, mais les résultats plaident pour lui. Toujours chez les amateurs de foot, 91% le juge compétent, 87% bon tacticien, 82% estiment qu'il incarne la gagne. Par conséquent, la prudence, ça paye. Didier Deschamps, intouchable sur le terrain. En dehors également, 83% des Français ont une bonne opinion de lui. Il est sympathique, rassembleur, exemplaire, proche du public et charismatique. Il a toutes les qualités et a une très large majorité. N'en jetez plus. La cote d'amour entre les Français et Didier Deschamps est à son zénith et 60% des amateurs de football souhaitent qu'il continue le plus longtemps possible au poste de sélectionneur. C'est comme pour le bâtiment, quand le résultat va, tout va.
Christian Olivier pour RTL.
Merci beaucoup Aude Vernuccio pour ce journal complet.